Rebelle Hebdo, le magazine des luttes sociales et des alternatives politiques et économiques dans le bassin minier et au-delà. Micro Rebelle Hebdo, c'est chaque semaine sur micro-rebelle.fr.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un courriel à contact@micro-rebelle.fr.
Vous pouvez nous envoyer vos actualités toujours par courriel à contact@micro-rebelle.fr. Retrouvez toutes nos émissions sur le site de notre web radio micro-rebelle.fr.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bonjour à nos auditrices et à nos auditeurs. Vous êtes bien sur Micro Rebelle, dans notre émission hebdomadaire Micro Rebelle Hebdo, diffusée en direct sur microrebelle.fr chaque vendredi de 18h à 19h. Et je vous rappelle que plusieurs radios associatives hertziennes diffusent nos émissions également, diffusent Micro Rebelle Hebdo. Il s'agit de radios associatives membres de la FRANF, la Fédération des radios associatives du Nord de la France, notamment Radio PFM 99.9, qui rediffuse Micro Rebelle Hebdo chaque vendredi soir à partir de 20h, chaque samedi matin à 7h30 et le dimanche après-midi à 14h. Également nos amis de Radio Plus 104.3, qui nous rediffusent le mardi à 12h. Nous les remercions une fois de plus. Alors je vous rappelle que cette émission est publique, vous pouvez assister à chacun de nos enregistrements. Aujourd'hui d'ailleurs nous avons un invité en studio, bonjour Olivier. Et autour de la table il y a comme chaque vendredi, Jonathan. Bonjour Jonathan.
Bonjour, cette fois c'est moi qui a présenté l'agenda.
Donc effectivement la semaine dernière Jonathan s'était occupé de la technique et aujourd'hui on le retrouve derrière le micro. Également Aurélie. Bonjour Aurélie.
Bonjour.
Ta semaine à la fac, c'est bien terminé Aurélie ?
Oui, c'est bien, je suis enfin en vacances.
Eh bien, profitons-en. Et Luc ?
Bonsoir à toutes et à tous.
Donc Luc est salarié à Micro Rebelle. Hein. Si vous en êtes d'accord, on va procéder comme d'habitude hein, par l'agenda social, culturel, politique que nous a préparé Jonathan.
Alors, commençons par le dimanche 17 février, la Meuse est-elle une poubelle ? L'île Radier, collectif de soutien et de lutte contre le projet CIGEO et l'association Robin des Bio, et non Robin des Bois, vous propose une séance du film L'Héritage empoisonné en présence de la réalisatrice Isabelle Masson-Louze. Dans les années 1920, la Belgique et la France se sont débarrassées des rebuts chimiques de la Première Guerre mondiale dans les territoires défavorisés. L'opposition des populations locales a été balayée par l'urgence des décisions et par les pressions exercées par les lobbies industriels et agricoles. L'actualité révèle que le déni des craintes exprimées à l'époque a favorisé un oubli délétère. Les habitants et habitantes du nord du département de la Meuse subissent encore aujourd'hui les conséquences de l'amnésie qui a entouré la pollution de leurs terres. Au cinéma L'Univers, 16 rue Georges Danton de Lille, dimanche 17 février à partir de 19h, l'entrée est à prix libre. Mardi 19 février, comptoir à initiative à Clise 21. La mission économie sociale et solidaire du conseil départemental organise ce mardi 19 février un comptoir à initiative à 9h au lac 23 avenue Jean Jaurès à Liévin. Le lac c'est également l'adresse de la coopérative Clise 21 qui accueille ce comptoir à initiative. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'une matinée qui s'adresse à toutes celles et ceux qui ont un projet ou même simplement une idée et qui souhaitent en discuter, se poser et poser des questions, se former également, rencontrer d'autres porteurs de projets et même des anciens porteurs de projets qui ont créé leur activité et y compris des organisations de l'ESS, Économie sociale et solidaire, plus anciennes. Au-delà de la matinée du 19 février, d'autres comptoirs à initiative se déroulent dans d'autres territoires du département. Ils s'inscrivent tous dans le cadre du budget citoyen mis en œuvre par le département et proposé au vote des habitants. En pratique, le comptoir à initiative du 19 février se déroule de la manière suivante. présentation du budget citoyen 2019 par le département du Pas-de-Calais, présentation par CLIS 21, 5 ateliers au choix pour consolider son projet, découverte de l'économie sociale et solidaire pour connaître et comprendre l'ESS, de l'idée au projet pour consolider son idée et le rendre réalisable, découvrir et construire son modèle économique pour concevoir son mode de fonctionnement en intégrant les bénévoles, les partenaires, les citoyens, défendre et faire comprendre son initiative pour être efficace et pertinent dans sa présentation. Enfin, synthétiser ses pratiques solidaires pour appréhender, extraire et formuler les pratiques d'ESS de son projet. Il y aura aussi la rencontre et d'échanges lors d'un temps de convivialité avec les ambassadeurs du territoire, les partenaires, les porteurs d'idées et de projets, avec à la clé des conseils, de l'entraide et l'établissement de possibles partenariats. Vendredi 22 février, les gens d'ici. Les gens d'ici, le théâtre par la compagnie La Générale d'Imaginaire, des hommes ont installé un campement en face de l'immeuble de Fanny. Une réalité jusque-là inconnue fait éruption dans la vie de la petite fille. Autour d'elle, la question des migrants divise. Ont-ils le droit d'être là? Faut-il leur venir en aide? Sont-ils dangereux? Avec la fantaisie qui la caractérise, Fanny tente de comprendre la situation et de se forger une opinion. Contre l'avis de sa mère, sa grande sœur s'investit de plus en plus auprès des personnes migrantes. Petit à petit, le quotidien de la famille s'en trouve bouleversé. Avec les gens d'ici, il s'agit de provoquer une rencontre, un déplacement et de faire entendre une autre parole que les discours réducteurs sur les personnes migrantes. Comme Fanny, ces rencontres nous font réfléchir, grandir et enrichissent notre regard sur inscription. Alors, c'est à la salle des fêtes à Quentin, près de Douai, à 19h, par téléphone au 03 27 89 99 94. Enfin, la dernière date de l'agenda, c'est le samedi 23 février. Il y aura l'Assemblée Micro-Rebelle. L'Assemblée Micro-Rebelle, c'est le dernier samedi du mois de 10h à 12h30 au LAG. Pour ce samedi 23 février, ce sera l'occasion de faire le bilan de l'année écoulée avec le rapport d'activité, le rapport moral et le bilan financier. Ce sera également l'occasion de discuter des perspectives de cette année 2019, des perspectives tout à fait positives avec de nouvelles activités, de nouvelles idées et également, on en parlera, le renforcement de l'équipe salariée. N'hésitez donc pas à venir nous rencontrer, c'est donc samedi 23 février de 10h à 12h30 au LAG à Liévin. Vous pouvez aussi avoir une petite dédicace de l'équipe Micro-Rebelle, elle ne vaudra rien pour le moment, mais quand on sera célèbre, elle vaudra une petite fortune. Je rappelle aussi que toutes les informations que nous diffusons dans le cadre de cet agenda sont disponibles sur le blog des adhérents et adhérentes de Micro-Rebelle. N'hésitez donc pas à vous rendre sur microrebelle.fr et à cliquer sur le blog des adhérents.
Je me permets d'insister sur la dernière annonce qu'a effectuée Jonathan. Donc effectivement, samedi 23, donc le dernier samedi du mois, ce sera notre Assemblée Générale, donc qui est effectivement réservée d'une manière formelle à nos adhérentes et adhérents, mais que nous tenons à ouvrir à l'ensemble de nos auditrices, de nos auditeurs, de ceux qui nous soutiennent. C'est l'occasion de venir nous rencontrer, de y compris nous faire des suggestions, nous interroger sur notre ligne éditoriale, les émissions que nous avons diffusées ces derniers mois. N'hésitez donc pas, donc samedi 23 février à 10h au LAG, 23 avenue Jean Jaurès.
Première pause musicale.
C'est parti.
Alors, comme d'habitude sur Micro-Rebelle, c'est de la musique libre, c'est-à-dire que ce sont des artistes qui diffusent via la licence Creative Commons. Alors, libre, ça ne veut pas toujours dire que c'est gratuit, ça veut surtout dire que les musiciens, les producteurs, chanteurs, chanteuses acceptent qu'on diffuse librement, qu'on utilise leur musique. Alors, un artiste dont on avait parlé la semaine dernière, Dexter Story, il est américain de Californie. Voilà, c'est frais, c'est plaisant. Je trouvais qu'on ne l'avait pas assez diffusé au dernier numéro et comme on aimait beaucoup, on en remet un petit extrait. Celui-ci, c'est Changa Muka avec Dustin Warren, Dexter Story. Ça arrive tout de suite. We'll be right back.
Sister love, sister love, sister love. Get down, get down. Yeah. Get down, brother.
Voilà, de la musique qui va bien avec le soleil printanier qu'il y avait aujourd'hui.
Eh bien, on va poursuivre notre micro-rebelle hebdo, comme d'habitude, par une petite revue de presse, hein, locale, et puis nationale également. Hein, donc on s'y est mis tous les deux, Aurélie et moi. Donc je vais commencer par les actualités pêchées dans la presse locale. Alors j'avais envie de commencer justement par plusieurs articles cette semaine qui concernent la santé dans le bassin minier, sur le territoire. Alors, avant d'évoquer directement les articles, je voulais revenir sur le plan santé. Hein, le plan santé, c'est le plan qu'a présenté la ministre Agnès Buzyn mercredi 12 février, donc c'est tout à fait récent. C'est un projet de plan Ma Santé 2022. Alors, peut-être quelques indications pour avoir des points de repère sur ce plan santé. C'est un plan qui est budgété à hauteur de 3,4 milliards d'euros d'ici 2022. Avec une rallonge de 400 millions d'euros pour 2019. Alors attention, ne nous fions pas à ce que peut évoquer l'expression 3,4 milliards d'euros, hein, qui peut nous apparaître importante. Dans les faits, pour la santé, c'est extrêmement bas. D'ailleurs, Emmanuel Macron a bien prévenu, notre système ne souffre pas d'un manque de moyens. Donc selon le pouvoir, la santé bénéficie de tous les moyens nécessaires. Et puisqu'il ne s'agit pas d'un manque de moyens pour le gouvernement, c'est donc tout simplement un problème d'organisation. Et c'est donc ainsi que les hôpitaux seront désormais classés en trois catégories. Ceux qui prennent en charge les soins dits de proximité, ceux qui prennent en charge les soins spécialisés, par exemple la chirurgie ou la maternité, et ceux qui disposent de plateaux techniques de pointe. Et il faudra attendre le vote de la loi pour savoir ce que cela signifie concrètement, et notamment quels services, et y compris quels hôpitaux, seront fermés. Il est également significatif que plusieurs mesures annoncées par Macron ne figurent pas dans ce plan. Donc, quelques mesures qu'il avait annoncées, la réforme du financement des hôpitaux, la création de 4000 postes d'assistants médicaux, donc tout ça, ça n'est pas dans le plan, la création de 1000 communautés professionnelles territoriales de santé. Tout ceci dans un contexte d'aggravation de l'austérité dans le domaine de la santé, avec des répercussions très concrètes pour la population. Alors justement, la Voix du Nord, premier exemple, décrit la réalité du centre hospitalier de Lens. Je cite le journal. 7 des 15 médecins urgentistes titulaires vont quitter le centre hospitalier de Lens d'ici août. D'autres pourraient suivre. Le service est en train d'exploser, diagnostique l'un d'eux. Deux réunions ont eu lieu dans la semaine pour tenter de parer au plus pressé et de sauver un service qui se délite, dixit le chef de pôle urgence de Lens-Béthune. Et la Voix du Nord de poursuivre. Sous-effectif chronique, fermeture du SMUR, surpopulation des urgences avec des patients y passant jusqu'à 24 heures avant d'être transférés dans le service adéquat. En juillet, trois médecins urgentistes lensois racontaient déjà un quotidien difficile. 6 mois plus tard, la situation s'est dégradée au point que les urgences lensoises tanguent sérieusement. 7 départs sur les 15 titulaires sont actés entre janvier et août prochain, dont un pour raison de santé et celui du chef de service qui prend sa retraite. Ces deux remplaçants potentiels ont décliné. C'est dramatique. L'équipe des urgences explose. Ce n'est pas un perdreau de l'année qui sonne l'alarme, mais un pilier du service. Christian Jakubowski est médecin urgentiste au CH Lens depuis 2000. Et le praticien d'ajouter, malgré le recul de mes 20 ans d'expérience, j'ai peur d'aller au boulot. De son côté, Liberté Hebdo cette semaine, titre « Des moyens pour le centre hospitalier de Béthune Beuvry. Le journal explique « Après avoir subi en 2018 la fermeture de l'unité de cardiologie, l'annonce du projet scandaleux de suppression de 81,6 ETP, équivalent temps plein, a mis le feu aux poudres. Ainsi, la restauration, le bio-nettoyage, l'administration, mais également les services de soins sont visés par ce projet d'austérité, appelé en langage technocratique « plan de retour à l'équilibre ». Or, le déséquilibre financier s'est accentué en 2018 sous l'effet d'une baisse massive des recettes d'activité, due essentiellement à la fermeture des services cardiologie, unités et soins intensifs. Le centre hospitalier de Béthune-Beuvry n'a pas à subir la double peine. C'est délibérément, que l'ARS, l'Agence régionale de santé, a supprimé le service cardiologie pour ensuite, au prétexte d'une baisse d'activité, lui supprimer des moyens indispensables à son fonctionnement en 2019. Voilà, c'était un peu l'extrait du journal Liberté Hebdo de cette semaine. Voilà donc, décrite dans la presse locale, la réalité de la santé à Lens et à Béthune, c'est-à-dire un territoire, rappelle Liberté Hebdo, qui connaît un taux de mortalité supérieur à la moyenne nationale, ainsi qu'un taux de prévalence des cancers et des maladies chroniques qui place le bassin minier en tête de ce classement morbide. Tout ceci, bien sûr, est à mettre en regard des énormes cadeaux que le gouvernement octroie à des entreprises afin qu'elles gavent abondamment leurs actionnaires. Nous revenons maintenant sur la situation à Auchan-Noyelle-Godault. Nous l'avons évoqué la semaine dernière. 6 salariés ont été mis à pied pour vol. En fait, ils avaient mis, au moment de Noël, des jouets de côté pour des collègues qui les avaient ensuite payés. Nous avons appris que 5 parmi ces 6 salariés ont été réintégrés. Le 6e salarié pourrait servir d'exemple au niveau de la direction. Avant cette réintégration, les travailleurs et travailleuses de Auchan, avec leurs organisations syndicales, avaient reçu le soutien de plusieurs consommateurs. La Voix du Nord rapporte une manifestation en soutien des salariés d'Auchan mis à pied. Une manifestation intersyndicale, FO-CGT, a eu lieu hier matin à l'entrée d'Auchan. L'objectif ? Dénoncer les pratiques abusives des ressources humaines et défendre 6 salariés mis à pied pour vol. Le journal précise notamment « Parmi la trentaine de manifestants, des employés, syndicalistes, particuliers et 5 des 6 personnes concernées, abasourdis, comme Alexis et Cédric. « Je cherche quelle erreur j'ai pu faire, » dit l'un. « On m'a reproché de mettre des jouets de côté pour les collègues et on m'a parlé d'escroquerie, » indique le second. Même incompréhension de leurs collègues. On a mis de côté, on a payé, on n'a rien volé, c'est monnaie courante au magasin, tout le monde pourrait être mis à pied. Nous évoquons maintenant, au travers de la presse, l'entreprise Amazon, implantée à Lovainplanque, près de Douai. La Voix du Nord donne la parole au directeur de la logistique d'Amazon, et on peut vraiment dire que, à ses yeux, tout se passe magnifiquement bien. Extrait. Le site de Lovainplanque est le plus mécanisé des 5 sites français et le plus grand, l'équivalent de 26 terrains de football en surface d'exploitation, figurant dans le top 5 des sites en Europe. Avec plus de 500 000 colis traités chaque jour en vitesse de croisière et bien davantage dans le pic d'activité de fin d'année, il détient la plus forte capacité d'expédition de colis en pic d'activité en France. Le site arrive à maturité industrielle et nous embauchons toujours 500 CDI chaque année depuis le début. Nous sommes aujourd'hui 2500 CDI hors pic d'activité. En fin d'année, nous avons géré plus de 4500 contrats, en comptant donc les intérimaires. Je ne vois rien qui nous empêche de poursuivre sur cette capacité d'embauche avec une croissance de 20 à 25% de commandes sur notre site chaque année. Je ne regarde pas la productivité, mais celle de Lovainplanque est dans la norme d'Amazon en France, avec 35 minutes du clic de la commande du client au départ du camion de livraison. Heureusement, la Voix du Nord donne, en contrepoint, la parole à un délégué force ouvrière de l'entreprise et à un délégué CGT. Le journal précise « Des actions sont engagées contre la direction pour le non-respect de la convention collective du commerce de détail, prévoyant davantage de classification pour les rémunérations. » Les conditions de travail restent compliquées, ajoute Christophe Bocquet, délégué force ouvrière, évoquant surveillance constante, complications quand par exemple la direction se trompe sur le remboursement d'arrêt maladie. Il insiste sur les évaluations permanentes et souvent sous tension de la productivité des salariés avec des avertissements, des mises à pied. Le taux de satisfaction de 80% est avancé par la direction. Chaque salarié doit répondre à des questions chaque jour, explique Habib Latrèche, délégué CGT. On doit donner notre login, donc l'information est tracée. Beaucoup de salariés ont peur, on fait aussi nos sondages et c'est moins positif. Toujours dans le monde du travail, la Voix du Nord évoque la situation en Belgique. En effet, mercredi dernier était jour de grève générale. Extrait de l'article du journal. Belgique morne pleine en ce mercredi de grève générale. Les autoroutes sont vides, les centres commerciaux au calme. L'espace aérien et les aéroports sont fermés. Un train sur deux circule. Les TEC, transports en commun, roulent au compte-gouttes. Les administrations ont, pour la plupart, fermé leurs guichets. L'échec, le 22 janvier, des négociations interprofessionnelles du privé sur la marge d'augmentation, plus 0,8% pour les employeurs sur 2019-2020, plus 1,8% pour les syndicats, plonge le pays dans l'incertitude. S'agrègent d'autres revendications, comme la loi de 1996, qui encadre cette marge salariale, le salaire minimum, les petites pensions et le régime de chômage avec complément de l'employeur. Il y a beaucoup de combats à mener. Face à un gouvernement libéral, c'est hyper compliqué, souffle Jean-Marc Urbain, secrétaire fédéral de la Confédération des syndicats chrétiens de Mons-la-Louvière. On revient avec la Voix du Nord sur une thématique que nous avons traitée récemment à Micro-Rebelle, l'implantation d'un maraîcher bio, Jonathan Bétermier, sur la commune de Loison-sous-Lens, via la fondation Terre de Liens. Vous pouvez bien sûr retrouver l'entretien que nous avons réalisé avec Terre de Liens sur microrebelle.fr. La Voix du Nord rappelle les enjeux de la collecte mise en place par Terre de Liens. Les premiers légumes de Jonathan Bétermier sont encore loin de pousser. Via la fondation Terre de Liens, le maraîcher est en cours d'acquisition du terrain de 2,3 hectares et a besoin de dons. La collecte pour l'installation de Jonathan atteint environ 5000 euros aujourd'hui. C'est environ la moitié de ce dont il a besoin, renseigne Agnès Julien en service civique pour l'association. En attendant, un chantier de plantation d'arbres assurant la ceinture paysagère et le verger sera proposé les 8 et 9 mars. Les volontaires pourront ainsi, gratuitement, planter un arbre pour favoriser la biodiversité et soutenir ce projet au long cours. Nous terminons cette revue de presse par la question de la gratuité des transports en commun. C'est une question particulièrement d'actualité dans le bassin minier avec l'arrivée du BHNS, le bus à haut niveau de service. On a déjà eu souvent l'occasion de donner la parole à des militantes et des militants, à des habitantes et des habitants du bassin minier qui souhaitent la gratuité des transports en commun sur le bassin minier. La semaine dernière, nous évoquions des propos de Martine Aubry, maire de Lille, en faveur de la gratuité. Selon Liberté Hebdo, ça n'est peut-être pas aussi simple. Extrait. Métropole lilloise, transport gratuit, la mobilisation reprend. À Dunkerque, Calais, comme dans le Douaisis et le Valenciennois, la gratuité des transports collectifs fait de nouveaux adeptes. Dans la métropole lilloise, on évoque déjà une hausse des tarifs. Branle-bas de combat. Plusieurs organisations représentatives des salariés, des retraités et consommateurs viennent d'adresser une lettre ouverte aux élus de la métropole européenne de Lille, la MEL, pour que ça change dans les transports publics. Invoquant l'urgence climatique, de santé publique, de pouvoir d'achat, elles demandent le développement et l'amélioration du réseau existant, desserte, cadencement, rapidité, à l'inverse de la réorganisation intervenue le 28 janvier 2019. Et comme cela est déjà appliqué à Dunkerque et bientôt dans une certaine mesure à Calais, dans le Douaisis et le Valenciennois, ce collectif relance la question de la gratuité de l'accès au transport. Il réclame que les élus se penchent sur leurs propositions en la matière. Gratuité les week-ends, jours fériés et lors des pics de pollution. Une réduction importante du coût des transports pour aller vers la gratuité totale et immédiatement la gratuité des transports pour les scolaires, étudiants, chômeurs, retraités et handicapés. C'est donc à suivre à Lille comme dans le bassin minier. Alors, hors revue de presse, hein, j'ai récupéré plusieurs informations à ce sujet. Je voulais évoquer le décès d'Emiliano Sala. Alors Emiliano Sala, on en a beaucoup parlé ces temps-ci. C'est le footballeur que le Football Club de Nantes avait vendu au club de foot de Cardiff et dont l'avion privé s'est abîmé en mer alors que justement il rejoignait Cardiff. Son corps vient d'être retrouvé alors que celui du pilote de l'avion est toujours introuvable. Alors je ne sais pas si les recherches se poursuivent. Emiliano Sala avait 28 ans. Il était argentin et il était donc l'avant-centre, buteur de Nantes. Et à ce titre, il était adulé par les supporters et supportrices. Il avait été acheté 1 million d'euros par Nantes en 2015 et Nantes le revendait 17 millions d'euros à Cardiff. À l'occasion de ce transfert, son salaire aurait été multiplié quasiment par 10. Là où cette affaire commence à devenir sordide, c'est que Nantes exige de Cardiff le paiement de ces fameux 17 millions d'euros au motif que Cardiff a signé le contrat de transfert. Cardiff qui, de son côté, n'entend pas payer. Se rajoute à ça le club de Bordeaux, dans lequel Emiliano Sala avait été formé. Bordeaux aurait dû, en effet, recevoir une partie de la somme. Et voilà donc la triste réalité du football business. Tandis que les supportrices et supporters regrettent la disparition d'un joueur qu'ils apprécient, les dirigeants s'écharpent à proposer des millions qu'ils escomptent encaisser. Cette revue de presse est donc terminée. On va maintenant poursuivre par l'actualité au niveau de la presse nationale. Aurélie ?
Merci. Un article paru dans Le Monde diplomatique ce mois-ci parle de l'initiative citoyenne et des personnes qui justement craignent cette mesure. En effet, il est intéressant de constater à quel point le référendum d'initiative populaire, RIC pour les intimes, fait débat au sein de notre société, notamment avec l'actualité concernant les Gilets jaunes. Ceux qui ont le plus à craindre de l'initiative citoyenne sont justement ceux qui la refusent, c'est-à-dire ceux qui sont à la tête de nos institutions. Pardon. Ce sont les mêmes qui, à mon sens, ont du mal avec la définition de la démocratie, démocratie qui est, rappelons-le, indirecte et de laquelle le pouvoir émane avant tout du peuple. Alors, c'est un comble dans ce cas que le peuple demande plus de pouvoir s'il en est lui-même l'origine. Pourtant, on remarque qu'en France, dans certaines municipalités, des procédures ouvertes à l'initiative citoyenne ont été créées depuis quelques années, mais pourtant, l'article mentionne bien que sur une cinquantaine d'initiatives déposées, seules 4 ont réellement abouti. En effet, les procédures pour ces initiatives citoyennes sont relativement longues et nombreuses. De quoi décourager ceux qui ont un réel projet mais dont la voix n'est pas assez entendue. Et puis, une question se pose. Une initiative citoyenne, oui, mais sur quel thème, sur quel sujet, dont on remet en question les droits acquis depuis longtemps, les droits dits fondamentaux? Car on pourrait penser que l'initiative citoyenne reviendrait à créer le chaos si elle n'est pas correctement encadrée. Pour les plus révolutionnaires, l'initiative citoyenne pourrait permettre de renverser le gouvernement. Alors comment la réguler? Le gouvernement a mis en place entre 2009 et 2013 la saisine pétitionnaire, expérimentée, mais comment gérer ce type de dispositif, à part s'assurer que les initiatives soient partagées par le plus grand nombre de Français? Au minimum 500 000 signatures étaient nécessaires. Cependant, lorsque la Manif pour tous a utilisé ce droit en 2013 pour contrer la loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, c'est la panique à bord au sein du gouvernement. En effet, peut-on révoquer les droits fondamentaux? On pourrait envisager alors des initiatives locales avec moins d'attente, beaucoup plus de spontanéité, de la part des institutions et moins de procédures inutiles. Initiatives citoyennes qui resteraient toutefois, et bien sûr, en accord avec les droits fondamentaux de l'homme.
Seconde pause musicale. Alors je suis assez contente de pouvoir diffuser ça parce que c'est un artiste que j'aime bien, un rappeur américain qui s'appelle Milo. Alors quand j'ai découvert que c'était libre de droit, j'étais assez content de pouvoir le mettre dans Micro Rebelle Hebdo. L'extrait ici c'est Sans Souci Palace.
Yeah. Good is the closest to evil. I know as I stroll the cathedral. Rogue taxidermist, macrame timelines like curtains. Sanssouci Palace, gold rope, dookie chain malice. Kabuki callus, moody and stylus. Using crystallis, a stylus. Thousand car pile up in Kabul. My Lucan cool, jukebox mule. Gunny sack ran a thread. I'm at their head losing marbles. Anxiety and car fools and car rides. All you see is potato chips on my bar tab archive. Blue like steel guitar hard slide. Blue like Wilhelm Reich. Bygone organite, Hammond organ squeal. 360 deal down to the focus right. I could never keep my focus right. Locus always shifting, plutonian physics. Lonely like weekend only visits. Temptation's the time I become a loathsome inventor. Memory holy dementia. Enemy trying to hold me to how they remember. Night tremor fugue and a hammer pants suit. Black organist, organon organic. Whole man how God intended. The American way. The Perrigan praise, this is what merits praise. And Fridays with F. Gary Gray, Sarah staring strays, as does good fortune, never green horses. Goodbye, remorses, I'm flying over you. Yeah. Roll Lazarus, go Maverick. The pull had him asking about Magnus. They ain't seen me up early at the ass crack with it. Must get sleep, must consummate with lover. All rappers seem to seek out what make them suffer. Must get sleep, must consummate with lover. All rappers seem to seek out what, yeah. In my palm the weight of ammo was felt. Waved a stick like I gessoed the canvas myself. Toboggan cut sharply, cut a rug nicely. Exit stage center with the buttercream icing. Stripped of my handicaps, fitted like pop mint. Bebop so ill, money clip engraved with the guild name. Left my copy of Leviathan at the gun range. Buttergen for the wonderkin who made a career of out loud wondering. Smelling like Satsuma, spit it like your math tutor. No time for the subtle cynic, befuddled critic with whimsy. Beard like Gimli, and if my light shine dimly, it still shine. Iridescent moleskine, grown mouth. Cue ball, Jinder Mahal, Cupid shuffle, Gronkowski. Take my house keys, doubting Thomas's get browbeat. Hoisting poetry, big bags of Nostrum groceries. I am not what you suppose, but far different. Whoever you are holding me now in hand, without one thing, all will be useless. I give you fair warning before you attempt me further. I am not what you suppose, but far different. Therefore, release me now, before troubling yourself further.
Web radio indépendante de Bassamini, micro-rebelle, média local alternatif, solidaire quoi.
Vous êtes toujours à l'écoute de Micro-Rebelle Hebdo, une émission de Micro-Rebelle rediffusée sur Radio PFM à Arras et Radio Plus à Douvrin. À présent, le festival des Utopistes Debout qui aura lieu du 8 mars au 5 avril à Avion. C'est la quatrième édition cette année et le festival grandit, grossit et sème au fur et à mesure avec des dates maintenant à Méricourt, Salomine, Mazagarbe, Carvin, des partenariats qui se multiplient, notamment avec Colère du Présent, Culture Commune ou encore l'école Buissonnière. Alors c'est plutôt rare qu'on fasse des sujets sur la culture à micro-rebelle, mais quand il s'agit d'affirmer que le théâtre peut être un outil d'émancipation, ce qu'on revendique pour la radio, et qu'on rechigne pas à montrer son engagement politique, on est plutôt d'accord. Alors pour vous donner une idée, un extrait de la plaquette de la saison culturelle d'Avion, où on décrit le théâtre comme quelque chose qui bouscule pour que les publics les plus éloignés de nos structures puissent trouver des passerelles, des mains tendues afin de trouver des contenus, des formes, des pratiques qui sont un écho à leur réalité, qui offrent un chemin parmi d'autres susceptibles d'allumer une flamme d'espérance, un souffle de révolte. L'objectif est clairement de transformer la colère qui gangrène nos quartiers en colère saine et constructive. C'est la culture qui hisse le drapeau pour élever les consciences, qui refuse le silence face aux dérives et dangers liés à un système global qui nous place tous dans une logique de guerre permanente. On diffuse donc aujourd'hui un entretien qu'on a eu également aujourd'hui avec Michel Grabowski qui est directeur des services culturels de la ville d'Avion. Donc il nous parle ici de sa conception de la culture, sa conception du théâtre et du programme du festival qui aura lieu, je le répète, du 8 mars au 5 avril 2019.
À Avion, au niveau de la culture, on a depuis très longtemps eu à l'esprit et l'envie, dans le cadre de notre programmation de spectacle, d'accueillir des créations portées par des compagnies, par des artistes, qui traitent de sujets liés à l'actualité, aux problèmes que l'on vit, que l'on rencontre dans la société, etc. C'est venu un petit peu comme ça, petit à petit, naturellement. Et en parallèle à un contexte dans notre société où la culture, c'est quelque chose qui est de plus en plus difficile à porter. Dans notre société, il y a de moins en moins de moyens. Aussi, peut-être, globalement, je dirais, une absence de réflexion sur les contenus. Parce que dans certaines collectivités ou dans certains théâtres, on a pour ambition, et elle est louable, c'est d'accueillir un maximum de public, de remplir son lieu, sa salle, mais peut-être pas suffisamment de se préoccuper, en tout cas d'avoir une réflexion sur les contenus tels que nous on l'entend, c'est-à-dire que nous on part du principe que la culture a un rôle à jouer pour nourrir le débat public. Les gens qu'on accueille dans notre salle, voilà, ce sont des spectateurs, mais pas que. Ce sont aussi des citoyens. Ce sont des gens qui ont des vies, qui ont du travail, qui ont non, en tout cas, voilà, qui sont dans un contexte de société dans lequel nous, on baigne aussi. Et nous, ici, on part du principe que la culture, elle n'est pas en dehors de tout ça. On vit, on subit les choses, on les traverse. On est quand même sur un territoire, le bassin minier de la région de Lens, qui est sinistré socialement et économiquement depuis la fermeture des mines. Moi, je le sais personnellement parce que je travaille sur ce secteur depuis plus de 30 ans. Donc, je sais comment les choses ont évolué ou pas évolué. Et comment les gens ont des difficultés aussi, et c'est naturel, à se projeter, parce qu'ils sont dans une précarité qui ne leur permet pas justement de se projeter. Donc, dedans la culture, nous, on dit qu'elle elle doit prendre en compte ces choses-là et elle doit, du coup, créer des temps, des rendez-vous qui nous permettent ensemble, artistes, spectateurs, etc., de réfléchir, de discuter. Et moi, en tant que programmateur, mon rôle, c'est justement de provoquer ces rencontres-là pour permettre aux gens, sur certaines questions de société, on peut parler par exemple de la question des migrants, hein, qui est une question très sensible à notre époque, à travers des créations artistiques, et il y en a pas mal, hein, il y en a eu récemment, notamment sur les migrants de Calais, etc., sur la jungle, à travers cette matière-là, de se réinterroger. Notre rôle, c'est ça, c'est de donner aux gens des éléments pour se réinterroger. C'est comme un cinéma qui ferait que du grand public, mais qui ferait pas de l'auteur. Ou c'est comme la littérature. Il y a de la littérature de gare, qu'on appelle, mais il y a aussi une littérature qui est avec des sujets très profonds, ou etc., etc. Donc on est, et c'est pas parce que ce territoire, l'ex-bassin minier, est sinistré socialement, économiquement, que on peut pas proposer ça aux gens. Bien sûr que si, on peut le proposer. Parce que, et on le voit dans l'actualité récente avec les gilets jaunes, etc., les gens ont une pensée, ont une parole, ont des choses à dire. Donc il faut les aider à nourrir leur réflexion pour qu'ils puissent s'exprimer, trouver leur place dans la vie, dans la société, dans le vivre ensemble et continuer à avancer. La culture, c'est ça. Et donc, on est arrivé à un stade, il y a 5 ans à peu près, après la lutte des intermittents, justement, quand on a cherché à remettre en cause leur régime, nous ici, on s'est impliqués, on avait créé des assises de la garage de ceux qui n'ont plus rien. Et l'idée est venue de créer un temps fort, parce qu'on s'est dit, en créant un temps fort, d'année en année, on gagnera, on aura une meilleure lisibilité, et on espère comme ça convaincre et gagner de plus en plus de monde pour créer des rendez-vous très forts sur ces questions-là. Donc est né donc il y a 4 ans le festival des Utopies debout à Avion. On était seul la première année, on a tenté avec plus ou moins de réussite parce que ça va pas de soi. C'est vrai que les gens ils viennent pas forcément facilement, spontanément vers ce genre d'offre. Du coup on s'est dit pour la seconde année on va essayer d'informer et de rassembler autour de nous les associations militantes du territoire. Et nous ont rejoint cette année-là le LAG à Liévin, Colère du Présent à Arras, Attaque Artois, il y avait le MRAP, il y avait Amnesty International, un certain nombre d'associations à qui on a parlé de notre projet et on s'est dit relayez aussi vous autour de vous. Parce que ce festival n'est pas que local, n'est pas qu'avionné, il doit rayonner. La deuxième édition s'est construite comme ça. Et moi, en parallèle, dans mes réseaux, dans les réseaux de lieux de culture du territoire, j'en ai parlé à mes homologues, et petit à petit, d'autres villes nous ont rejoints également. Aujourd'hui, pour l'édition 2019, on est par exemple sur le secteur lensois, sur la côté d'Aglo-Lanciévin. Il y a Mazingarbe, il y a Salomines, il y a Méricourt, il y a bien évidemment Avion, et il y a, même s'ils sont implantés, leur siège est à Arras, mais ils agissent aussi dans le bassin minier, Colère du Présent. Et pour l'édition 2019, nous ont rejoint aussi trois structures qui sont de la CAC, la communauté d'Aglo et Nacarvin, telles que l'Escapade à Hénin, l'école buissonnière de Stéphane Titlin à Montignan-Goël et l'association Aux Arts de Carvin. Donc, parce que l'idée, c'est que dans les différents lieux culturels de notre territoire, se créent régulièrement des rendez-vous estampillés Utopie Debout, repérés tels quels. Et là, on est en train de travailler, de réfléchir de plus en plus à créer une programmation spécifique, créer un compte Facebook, créer un site, pour que les gens qui connaissent et qui aient comme repère Utopie Debout et qui sachent que en voyant le logo Utopie Debout, ils se retrouveront vers une offre de création artistique qui a pour ambition de nous réinterroger ou de réinterroger la société, suivie d'abord plateau, d'un échange avec les artistes ou parfois des experts en fonction du sujet proposé par les artistes.
Michel Grabowski, tu es directeur du service culturel à la mairie d'Avion. Est-ce que tu peux nous parler de la programmation de cette quatrième édition du festival Utopiste Debout?
Cette année, ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'elle s'est construite aussi avec des partenariats. Et dans mon propos précédent, j'ai oublié de citer aussi une association qui est partie prenante, c'est Culture Commune. On l'ouvre le 8 mars prochain, à 20h30, et c'est une co-réalisation ici sur Avion avec Colère du Présent. Et c'est une pièce qu'on fait venir de la région parisienne qui a pour titre Un cœur de Moulinex. C'est la saga d'entreprise Moulinex. C'est une pièce quand même très forte avec 7 comédiens dans lequel tous les personnages sont interprétés, les ouvriers, le patron, le contremaître, etc. Du début de la création de cette entreprise jusqu'à la fin, hein, parce qu'elle a été aussi vendue à des actionnaires qui l'ont fermée. Ça, c'est le premier rendez-vous. Le second, c'est une compagnie de Berlin. Le spectacle s'appelle Béthune. Une pièce sans texte, c'est du théâtre masqué sans parole, mais qui parle, qui traite en tout cas des enfants des rues en Bolivie. Voilà, c'est un sujet qui est loin, mais les enfants des rues, il y en a partout, peut-être de plus en plus. Et il y aura d'ailleurs pour ce spectacle-là une scolaire pour les lycées d'Avion. Le troisième rendez-vous, c'est une semaine de pêché. Et là, c'est une proposition avec justement Culture Commune. Et on a un rendez-vous à l'année ensemble dans le cadre des Utopies Debout. Et là, 7 jours de pêché, c'est l'histoire d'un ouvrier, Conrad, qui décide de se prendre une semaine pour lui. Il a envie de faire une introspection sur lui, là où il en est, pourquoi il en est là, etc. Mais seulement pendant ces 7 jours de congé, il est sans cesse embêté par l'extérieur, en quelque sorte, hein, son patron, le syndicat, ses voisins, ses enfants, etc. Et en fait, la question qui est posée par ce spectacle-là, donc là, il faudra réserver très vite parce que c'est un seul en scène, mais limité à 80 personnes, parce que l'artiste veut un rapport de proximité avec le public, et tout le monde sera sur le plateau avec l'artiste. Et la question qui est posée, c'est dans ce monde dans lequel on est, est-ce qu'on peut véritablement avoir pour soi, à soi, un temps où on est vraiment libre? Et le dernier spectacle, j'y tiens beaucoup, parce qu'on a eu cette saison pas mal de rendez-vous sur la thématique jeunesse et immigration. Et là, on va le clore à ce moment-là avec une pièce qui s'appelle Pays de Malheur. C'est une jeune compagnie d'Amiens. Et Pays de Malheur, ça parle d'un emploi jeune qu'il effectue dans une bibliothèque. Il tombe sur le livre d'un sociologue, Stéphane Beau, et ce jeune, issu lui-même de l'immigration, d'une cité modeste, de parents modestes, ayant fait un passage à la fac mais sans résultat, il est interpellé par ce livre et il décide d'envoyer un mail au sociologue et va démarrer entre eux une correspondance d'un an. Et donc cette pièce est inspirée de ça, d'un fait réel, parce qu'un livre est sorti, coécrit par ce jeune et le sociologue. Donc ça retrace un peu voilà, ce parcours-là. Donc voilà, c'est des sujets un peu voilà, divers, hein. La jeunesse issue de l'immigration, le monde du travail, peut-on vraiment s'accorder des temps de liberté dans le monde dans lequel on est, les enfants des rues. Mais voilà, en tout cas, c'est des sujets multiples, mais qui peuvent parler aux gens. En même temps, c'est des rendez-vous artistiques, il ne faut pas l'oublier quand même. Et comme Béthune ou autre, moi, mon but, parce que Béthune, voilà, il y a une scolaire pour le lycée, c'est de montrer aussi des créations qui ne sont pas forcément courantes, mais qui sont des... Par exemple, pour Béthune, les artistes de la compagnie sont allés là-bas, en Bolivie, interroger les enfants. Il y a du vécu, il y a du réel là-dedans. Il y a du travail, il y a de l'engagement. Et ce qui est important aussi, c'est d'accueillir et de porter les créations proposées par des artistes qui s'engagent dans leurs propos.
Michel Grabowski à notre micro pour nous parler du festival Les Utopistes Debout qui aura lieu à Avion du 8 mars au 5 avril. Mais pas seulement à Avion, comme ça a été dit, comme vous avez pu l'entendre, il y aura également des dates à Méricourt, Salomine, Mazingarbe, Carvin, voilà, avec Culture Commune, à l'Escapade, à Hénin-Beaumont. Enfin voilà, j'en oublie certainement parce que comme ça grandit, mais qu'ils n'ont pas encore de plaquettes communes, il y a des dates à ce moment-là, il y a des dates un peu partout dans l'année. Voilà, c'est un festival qui commence à essaimer. On va refaire un petit peu de musique. Allez, on revient à Dexter Story, un autre extrait de son album qui s'appelait Wandem, ici en featuring avec Yared Teshali.
La libena, la libena, la libena.
On va terminer ce micro Rebelle Hebdo avec un entretien téléphonique avec Alain Ventroy, qui est responsable régional de la Ligue des Droits de l'Homme. Alors c'est un extrait, vous pourrez retrouver l'intégralité de cet entretien sur notre site internet microrebelle.fr. Il est déjà disponible d'ailleurs. Donc c'est au sujet de la loi anti-casseurs, cette loi limitant le droit de manifester à des personnes soupçonnées de vouloir troubler l'ordre public. Voilà, donc il y a beaucoup de mesures liberticides, il y a beaucoup d'opposition, de contestation vis-à-vis de cette loi au sein même de la majorité. Le plus dangereux étant certainement qu'on confie un pouvoir judiciaire à des préfets, parce que ce sont les préfets qui vont pouvoir obliger les personnes à ne plus pouvoir manifester. Voilà, un court extrait avec Alain Ventroy.
En fait, la loi ne peut interdire que les actions nuisibles à la société. Et tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut pas être empêché et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas. Donc ça, c'est les articles 4 et 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc il y a bien un domaine très limité dans lequel la loi peut intervenir pour empêcher l'individu d'exercer librement ce qu'il a envie de faire librement ce qu'il a envie de faire. Et sur la liberté de s'exprimer, la liberté de manifester, l'article 10 de la même déclaration nous dit que nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. C'est-à-dire que on sacralise même cette liberté de manifester ses opinions, avec toujours la même limite d'ordre public établi par la loi, mais dans un régime et dans un équilibre global qui est celui de la séparation des pouvoirs. Or là, ce qui va se passer si la loi est votée, c'est que, comme je l'expliquais tout à l'heure, les préfets vont pouvoir prendre des décisions sans qu'il y ait de contrôle du juge, donc des décisions contre lesquelles les recours seront compliqués, et si recours il y a, de toute façon, le temps utile sera passé, c'est-à-dire que la manifestation elle sera passée. Et le préfet décide d'interdire telle personne pour telle manifestation, puis que la personne a gain de cause et arrive à faire annuler la décision du préfet, si le préfet reprend une autre décision à une manifestation suivante contre la même personne et qu'il l'empêche de manifester, on voit bien qu'il y a un moment où c'est l'effectivité d'une liberté qui disparaît complètement, quoi.
Cette loi donne un pouvoir judiciaire à une autorité administrative, le préfet, qui pourra dès lors ordonner des interdictions de manifester. Elle confère donc un pouvoir qui repose sur l'arbitraire, puisqu'il s'agit de prévenir. On condamne sur un délit d'intention, en quelque sorte. Beaucoup parlent de dérive autoritaire. Est-ce un point de vue que vous partagez ?
À partir du moment où on revient sur ce système de séparation des pouvoirs, évidemment, c'est dangereux. Évidemment, puisque il n'y a pas toutes les procédures qui existent lorsqu'on fait appel au judiciaire. Quels seront les droits de la défense de quelqu'un qui aura été confondu avec quelqu'un qui lui ressemble et qui n'aura pas pu avoir automatiquement d'avocat, qui d'un seul coup sera sous le coup d'une interdiction de manifester? Celui-là, il aura perdu un peu de sa citoyenneté, ça sera encore un être humain, mais plus un citoyen en tout cas. Alors demain, on fait quoi? On interdit aussi le droit de vote pour cela, parce qu'on les a soupçonnés de vouloir être un jour violent dans une manifestation. Et puis, il y a cette question, donc outre les droits de la défense qui de toute façon ne pourront pas mis en œuvre, il y a cette question de procès d'intention. La détention, dans le texte de loi actuellement, la détention d'armes par destination pourra être pénalisée. Or, une arme par destination, c'est quoi? C'est un objet qui, par destination, c'est-à-dire à cause de la manière dont il est utilisé, sert d'arme. Et n'importe quoi pourra être considéré comme arme par destination. Alors, c'est déjà des choses qui existaient. Moi, un jour, un manifestant contre un projet nucléaire m'a raconté s'être fait arrêter par une compagnie de CRS qui lui ont fait lever le capot de sa voiture L'un d'entre eux a pris le cric de sa voiture et lui a dit « ça c'est quoi ?» Il a répondu « bah c'est un cric ». Le policier en face lui a dit « c'est une arme par destination ». Et puis il a été retenu le temps de la manifestation pour pas pouvoir participer à la manifestation. C'est des abus de droit, c'est des abus d'autorité qui avaient lieu déjà individuellement par-ci ou par-là. On en avait le rapport par les manifestants qui vivaient ce genre de choses, mais qui aujourd'hui rentrera dans un cadre légal. Et les textes fondamentaux le disent, quand un pays n'a plus de séparation des pouvoirs, la constitution de ce pays n'est pas assurée, la liberté des personnes n'est pas assurée. C'est bien dans ce contexte-là qu'on se trouve aujourd'hui.
Voilà, pour terminer ce micro Rebelle Hebdo, alors on rappelle que la semaine prochaine, le 23 février, il y aura notre AG annuel, où on fera rapport d'activité, bilan financier et prévision pour 2019. Les auditeurs et auditrices sont bien évidemment conviés. On salue nos amis de Radio PFM et de Radio Plus. On termine en musique. Emerald Pulse par Koresma. Alors là, c'est un peu hip-hop, électronica, si je me rappelle bien.